c'était Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zelani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 soir. Le maître mot, c'est terrorisme, celui qui a sévi à Moscou bien sûr, mais aussi les craintes en France. Dès le début de ce journal, nous vous raconterons aussi l'histoire de ces deux journalistes françaises condamnées pour avoir envoyé de l'argent à l'État islamique. La France désormais en alerte maximum. Gabriel Attal annonce des moyens exceptionnels face au terrorisme islamiste. Deux attentats déjoués depuis le début de l'année. Information Europe 1 à suivre sur l'un de ces projets d'attaque. En Russie, Vladimir Poutine ne prend toujours pas en compte la revendication de Daesh après l'attentat qui a fait 137 morts. Les quatre suspects qui ont été vraisemblablement torturés sont en détention provisoire. On parlera du terrorisme en Russie et des risques qui planent sur la France avec Marc Ecker, directeur de la recherche à l'IFRI. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Dans ce journal, quatre nouvelles opérations anti-drogue en cours, reportage à Roubaix, la crise chez Boeing, le directeur va s'en aller, et puis pour se changer les idées, on va écouter du chant lyrique, mais pas à l'opéra. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors perturbée avec pour débuter la semaine de la pluie dans la plupart des régions, avec une activité plus intense de la basse vallée du Rhône au Languedoc, puisque Météo France prévoit de bons cumuls d'eau, mais aussi un épisode de fortes vagues, en particulier sur le littoral de l'Hérault. Le département est placé en vigilance orange vague submersion, valable pour la matinée de demain. Prévision complète en fin de journal.
À tout à l'heure. Je vous le disais en titre, on ne parle quasiment que de terrorisme ce soir, surtout depuis l'attentat de Moscou. Et cette décision de justice concernant deux journalistes françaises est passée un petit peu inaperçue. Et pourtant, elle est importante. Vous avez peut-être entendu l'édito de Philippe Valle à 8h35 dans Europe 1 Matin. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le retrouver sur l'appli ou sur le site d'Europe 1. Il s'agit donc des journalistes Céline Martelet et Edith Bouvier. Elles ont été reconnues coupables d'avoir envoyé de l'argent à des membres de l'État islamique. Qu'est-ce que la justice leur reprochait précisément, Jean-Baptiste Marty ?
Eh bien, d'avoir voulu exfiltrer entre 2014 et 2017 certaines femmes radicalisées des zones de combat irako-syriennes et notamment de Mossoul, alors assiégée. Pour cela, les deux journalistes, Céline Martelet et Edith Bouvier, spécialisées dans le terrorisme et ayant travaillé pour Mediapart, récoltent des fonds et s'entourent d'un avocat, Bruno Vinet, le tout en dépit des mises en garde de la DGSI, des avertissements qu'elles ignorent donc et même qu'elles contournent. 37 000 euros sont au total réunis, des fonds destinés à corrompre des membres de l'État islamique et un militaire irakien pour faciliter les exfiltrations. Alors, pour les deux journalistes, il s'agit d'un projet humanitaire pour préserver en vie ces femmes djihadistes qui, selon elles, souhaitent se rendre aux autorités françaises. Des arguments qui n'ont pourtant pas convaincu le tribunal judiciaire de Paris. Tous ont été condamnés, des peines allant de 10 mois à 3 ans de prison avec sursis. Les deux journalistes qui comptent faire appel de la décision reconnaissent aujourd'hui être sortis du cadre de leur métier.
Jean-Baptiste Marty, nous sommes donc désormais en alerte maximale face à la menace d'attentat, décision prise hier soir lors d'un conseil de défense à l'Élysée. Concrètement, ça veut dire que la sécurité est renforcée autour des établissements scolaires, des lieux de culte, dans les transports ou encore près des institutions, avec des patrouilles sentinelles supplémentaires et des fouilles de sacs par exemple. Cet après-midi, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu à la gare Saint-Lazare et il a insisté sur la mobilisation du gouvernement face à cette menace terroriste.
Nous avons des résultats. 45 attentats ont été déjoués depuis 2017. Et depuis le début de cette année, il y a quelques mois seulement, déjà deux projets d'attentats ont été déjoués dans notre pays.
Donc deux attentats déjoués depuis le début de l'année. William Molinier, vous nous dévoilez des détails sur l'un de ces deux projets d'attaque.
Oui, cela s'est passé le 10 janvier dernier, selon les informations d'Europe 1. Un jeune homme de 23 ans, très radicalisé, a été interpellé à Marseille par la DGSI. Il est soupçonné d'avoir voulu préparer une action violente au moyen d'une arme à feu. Selon une source du renseignement, il projetait d'attaquer des cibles juives ou une boîte de nuit de la communauté homosexuelle. Il a été placé en garde à vue, interrogé par les enquêteurs et au cours de ses interrogatoires, eh bien, il a revendiqué appartenir à l'État islamique. C'est un jeune homme originaire de la ville de Marseille, qu'on nous décrit comme un consommateur régulier de vidéos de propagande de Daesh. Il est fasciné par les armes à feu et a adhéré à plusieurs théories complotistes. Un juge antiterroriste l'a mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et l'a placé en détention provisoire. C'est donc le premier attentat considéré comme déjoué par le contre-terrorisme depuis le début de l'année. Le deuxième est plus récent et la presse s'en était fait l'écho. Un homme de 62 ans, lui aussi fanatique de Daesh. Interpellé le 5 mars dernier, il projetait une attaque contre une église. Il aurait fait plusieurs repérages en ce sens. Lui aussi a été mis en examen et placé en détention provisoire.
William Molinier, ce renforcement de la sécurité à 4 mois des JO, il est lié bien évidemment à l'attentat terroriste de vendredi soir dans une salle de concert près de Moscou. Au moins 137 personnes ont été tuées. Attentat revendiqué par la branche afghane de l'organisation État islamique. Et pourtant, Caroline Baudry, Vladimir Poutine désigne toujours l'Ukraine.
Oui, le Kremlin avait refusé de commenter jusque-là cette revendication, mais Vladimir Poutine le déclare à l'instant. Cette attaque a été commise par des islamistes radicaux. L'enquête est toujours en cours et la piste ukrainienne est-elle farouchement démentie par Kiev et les Occidentaux? Pas de commentaire non plus sur les accusations de torture des suspects arrivés menottés, pliés en deux dans la salle d'audience, l'un d'eux en chaise roulante, les yeux fermés. Selon le tribunal de Moscou, deux des accusés ont plaidé coupables, au moins un est de nationalité tadjik. Le Tadjikistan, pays voisin de la Russie, est une ancienne république soviétique d'Asie centrale, majorité musulmane. Leur détention est fixée jusqu'au 22 mai. Dans l'attente de leur procès, ils encourent la prison à perpétuité. Les enquêteurs ont demandé aujourd'hui le placement de 3 autres suspects en détention provisoire. Un père et 2 de ses fils, 11 personnes au total avaient été arrêtées. Vladimir Poutine n'a pas prévu de se rendre au Krukus City Hall, le lieu de la pire attaque connue par le pays depuis une vingtaine d'années.
Et puis, je le rappelle, Caroline Baudry, à l'instant, Vladimir Poutine dit que cette attaque près de Moscou a été commise par des islamistes radicaux. Selon les informations d'Europe 1, sachez qu'un hommage sera rendu aux victimes de l'attentat de Moscou demain soir, avant le coup d'envoi du match amical France-Chili. Une minute de silence au stade Vélodrome de Marseille, annonce de Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot. Encore des menaces d'attentats contre des lycées et des collèges, près de 130 établissements concernés depuis la semaine dernière. Les derniers aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle. À chaque fois, les élèves les reçoivent via leur espace numérique de travail, les ENT. Et puis un garçon de 8 ans soupçonné d'avoir lancé des menaces de mort contre sa maîtresse de CE2 à Saint-Étienne. Menace également contre des policiers. 2 couteaux à steak auraient été retrouvés dans son cartable. Des expertises psychologiques sont en cours.
Europe 1 Soir.
L'actualité ce soir, c'est aussi cette première au Conseil de sécurité de l'ONU, l'adoption d'une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La décision avait été bloquée plusieurs fois par les États-Unis qui cette fois se sont abstenus à Vivafried.
Alors, cette résolution du Conseil de sécurité réclame un cessez-le-feu immédiat à Gaza pendant le Ramadan et appelle à la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Les États-Unis se sont abstenus, car la résolution ne condamne pas les attaques du 7 octobre. Mais leur décision de ne pas opposer leur veto est le signe le plus clair que les Américains sont frustrés par les actions menées par leur allié israélien. Des Israéliens qui ont répondu à l'abstention américaine en annulant la visite à Washington de 2 conseillers du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais les rencontres prévues entre les responsables américains et le ministre israélien de la Défense sont-elles maintenues pour discuter notamment de Rafah? Parallèlement, les négociations au Qatar continuent. Israël aurait accepté une proposition américaine sur un échange de 700 prisonniers palestiniens contre la libération de 40 otages. Le Hamas n'aurait pas encore approuvé, mais s'est dit prêt à libérer immédiatement des otages suite au vote de la résolution de l'ONU.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, et ce soir, Israël annonce que la guerre à Gaza se poursuivra tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. Les États-Unis où Donald Trump gagne du temps, la cour d'appel de l'État de New York lui donne 10 jours pour rassembler 175 millions de dollars, somme qu'il doit payer à la suite de sa condamnation au civil pour fraude financière, une caution considérablement réduite puisqu'au départ elle s'élevait à 454 millions de dollars. On va en reparler à 19h45 avec Yannick Mireur. Il est politologue spécialiste des affaires américaines. Il est 19h10 sur Europe 1. Dans un instant, des opérations Place Net XXL un peu partout en France. Reportage à suivre à Roubaix.
Europe 1 Soir.
19h12 sur Europe 1, les opérations Place Net se suivent, on verra si elles se ressemblent. Une semaine après celle de Marseille, toujours en cours, 4 nouvelles opérations anti-drogue ont été lancées simultanément ce matin en région parisienne, notamment à Sevran et Colombes, dans l'agglomération lyonnaise, à Dijon, mais aussi dans la métropole lilloise où s'est rendu Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur veut frapper fort contre le trafic de drogue et les dealers. Reportage dans le secteur du Pile à Roubaix, Maximilien Carlier.
Dans ce quartier rempli de maisons en briques rouges, des policiers à chaque coin de rue, des fourgonnettes de CRS stationnées devant des épiceries et restaurants, sur le capot d'un des véhicules des forces de l'ordre, une carte est dépliée. On y voit la localisation des points de deal dans la métropole lilloise. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Nous sommes évidemment à un point de bascule. Soit nous lâchons le travail contre la drogue, et alors nous sommes comme les Pays-Bas, comme la Belgique, aux mains des narcotrafiquants. Soit comme la France l'a toujours fait et comme nous l'accélérons désormais, nous luttons contre une pieuvre dont on doit pas simplement couper les pattes mais atteindre la tête pour éviter qu'ils aient trop d'argent, qu'ils aient trop de pouvoir et ensuite menacer l'ordre établi, c'est-à-dire l'État.
Le but étant également de rendre les quartiers aux habitants, qu'ils se sentent en sécurité. Céline, une Roubaisienne, observe plutôt satisfaite ce déploiement.
De voir un dispositif comme ça, c'est agréable. Ça calme un peu les choses aussi parce que ça va être, c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de drogue, de deal, c'est anxiogène. On veut pas sortir de chez soi à partir de certaines heures parce que quand t'es une femme, on a peur de se faire agresser. On n'a pas envie de les embêter.
D'embêter les dealers, insiste cette riveraine, mais on sait par habitude qu'ils reviendront. La seule solution, conclut-elle, fataliste, déménager.
Maximilien Carli à Roubaix pour Europe 1. Selon Gérald Darmanin, au total 15 000 policiers, gendarmes et douaniers seront mobilisés cette semaine en France sur les opérations PlaceNet XXL. Pour l'instant, selon le ministre de l'Intérieur, plus de 187 personnes ont été arrêtées. Aux États-Unis, Boeing traverse de sacrées turbulences. Les problèmes de sécurité sur des appareils se sont enchaînés et l'image de marque de l'avionneur est très atteinte. Aurélien Fleureau, on apprend aujourd'hui que la direction va donc changer.
Et oui, le patron actuel était arrivé il y a 4 ans en pleine crise après les deux crashs mortels du 737 MAX qui avait fait près de 350 morts en 2018 et 2019. Et il partira donc en fin d'année en pleine tourmente après un début 2024 chaotique. Plusieurs incidents techniques, le plus spectaculaire étant évidemment cette porte qui s'est détachée en plein vol sur la compagnie Alaska Airlines. Dave Calhoun et deux autres membres de la direction de Boeing seront remplacés. Il a expliqué sur CNBC pourquoi il resterait encore quelques mois.
Nous avons encore une montagne à gravir. Regardons en face ce qu'il s'est passé avec Alaska Air. Regardons en face les changements qu'il faut mettre en place dans nos usines. Il faudra ralentir notre rythme de production. Nous y arriverons. Je m'y suis engagé auprès du conseil d'administration.
Boeing avait effectivement été critiqué pour ses cadences infernales, une production intensive au détriment de la sécurité. L'agence américaine de l'aviation civile a lancé un audit des déboires dont Airbus peut profiter. Dernier exemple en date, Korean Airlines, qui est habitué jusque-là au Boeing. Eh bien, la compagnie a annoncé la semaine dernière passer commande à l'avionneur franco-allemand 33 avions A350 pour près de 14 milliards de dollars.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Merci Aurélien Fleureau. Allez, un peu de musique, ça adoucit les mœurs, et précisément de l'opéra, mais pas à la Scala de Milan, à la Fenice de Venise ou à l'Opéra Bastille, dans des lieux plus intimistes, mais exceptionnels tout de même. Opéra à Palazzo propose d'assister à des représentations dans des hôtels particuliers, comme ici la Traviata à la Fondation Del Duca à Paris. Marie Jiquel a testé pour nous.
Des dorures aux murs à faire pâlir le palais Garnier, de grands miroirs, un piano, ce luxueux salon de l'hôtel particulier apparaît comme le décor idéal pour jouer la Traviata. Le ténor Christophe Poncet de Solages.
En l'occurrence ce soir, nous sommes chez Violetta Valéry qui donne une grande fête. C'est une fête à laquelle Alfredo est convié. Ça fait bien longtemps qu'il est secrètement amoureux d'elle. Et j'interprète le rôle d'Alfredo.
Ici, pas de rideau, la scène est partagée avec le public qui se voit offrir une coupe de champagne par la soprano Émilie Rosebrie en pleine scène d'ouverture.
On arrive et c'est direct, on a les gens très proches de nous. On a vu des gens pleurer à chaudes larmes. On a eu des insultes même une fois lors de la scène où Alfredo, il me jetait à terre. Les gens vivent les émotions avec nous et c'est absolument génial.
Les chanteurs se changent, attendent leur scène à même le hall de l'hôtel devant le gardien des lieux, Mehdi, amusé par le spectacle.
Nous sommes dans les coulisses. Bah bon, c'est un petit peu là que tout se prépare en fin de compte.
Une immersion totale dans l'opéra de Verdi, même l'entracte réserve des surprises.
Voilà, ça c'était l'opéra, tout autre genre de musique parce qu'il en faut pour tous les goûts. Ah, vous avez prévenu, hein. Ça c'est le chanteur soprano qui retrouve la première place du classement des personnalités préférées des 7-14 ans. Il devance le footballeur Antoine Griezmann et l'astronaute Thomas Pesquet. Sondage Ipsos pour le journal de Mickey. Kylian Mbappé fait aussi partie des personnalités préférées des Français. La star et capitaine de l'équipe de France assure ce soir qu'il comprendrait si le public du Vélodrome le sifflait demain lors du match amical contre le Chili. Place maintenant au marché financier avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Paris termine à l'équilibre.
Clôture parfaitement stable pour le CAC qui poursuit sa pause. Il termine à 8152 points. Alors ça a quand même bougé du côté du secteur de la défense. Dassault, Aviation et Thales ont battu de nouveaux records dans un environnement géopolitique tendu trois jours après l'attentat meurtrier en Russie. Plus 7% ce soir pour Dassault Aviation qui est dopé par ailleurs par une note favorable d'analystes. Plus 1,9 pour Thales. Le pétrole aussi monte avec ses tensions, avec un baril de Brent à près de 86$. Et puis sur les autres marchés européens, Francfort gagne 0,3%, mais Londres 7,02. Plus 0,2 pour Amsterdam et le CAC 40 stable ce soir, 8152 points.
Merci Claire Lemaître. La météo avec vous, Marlène Duret. De la pluie sur une grande partie du pays demain.
Oh oui, on ressort les trenches, les impairs, les bottes en caoutchouc. Il va pleuvoir un peu partout, hein, faut le dire. Des pluies qui vont s'organiser d'abord sur les régions de la moitié ouest, avant de se décaler l'après-midi sur un axe Auvergne-Bourgogne-Champagne. Alors de la Bretagne à la Vendée, on est un petit peu moins touché et il y a vraiment une petite zone qui restera au sec. La Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté jusqu'aux Alpes du Nord. On va plutôt s'attarder sur ces deux zones de pluie qui vont se superposer dans le sud-est. Donc des pluies bien soutenues sur les Cévennes. Hein. On part des hauteurs de l'Hérault jusqu'en Ardèche, en Basse-Vallée du Rhône et en Corse. On pourra entendre gronder le tonnerre. Mais ce qui sera prédominant, c'est surtout le vent d'est sur les rivages de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Gard, de l'Hérault. Il va souffler jusqu'à 100 km à l'heure en rafale. Et ce vent, en prenant de l'ampleur, va générer de fortes vagues, en particulier sur le littoral de l'Hérault. Et donc le département a été placé en vigilance orange vague submersion pour un début d'événement à 6h demain matin et jusqu'à midi.
Et la neige fait aussi son retour.
Et oui, nouvel épisode neigeux. Alors, sur les Alpes du Sud, beaucoup de neige hein, sur les Alpes frontalières. D'ailleurs, d'ici à mercredi, Météo France prévoit plusieurs dizaines de centimètres, des 1700 mètres d'altitude, de la neige sur les Pyrénées et puis sur le Massif central aussi. Hein, vers 800 mètres sur les hauteurs du Limousin, le Cantal, le Massif de l'Aubrac, vous voyez, dans ces coins-là. Et puis beaucoup de neige aussi dans la nuit de mardi et mercredi, on en reparlera.
Ça va faire plaisir aux stations. Oui. Les températures contrastées. Hein,
oui, alors, elles remontent demain matin. Il a fait froid ce matin, donc ce sera mieux demain. Et les maximales, effectivement, 8 à 19 degrés, 8 du côté de Toulouse, forte baisse dans le sud-ouest, hein, 8 à Toulouse, à Tarbes, à Tours, 12 à Paris, 14 en région lilloise, 14-15 près de la Grande Bleue, 16 en Lorraine, 18 dans le sud de l'Alsace et jusqu'à 19 à Grenoble.
Merci beaucoup Marlène. 19h20 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, on revient sur l'attentat de Moscou revendiqué par l'État islamique, sur la menace terroriste en France où le niveau d'alerte est désormais maximum. Vos questions et vos réactions, c'est comme d'habitude au 01 80 20 39 21.
Europe 1 soir.
19h23 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Un bilan déjà très lourd en Russie. Au moins 137 morts. Un bilan qui pourrait s'aggraver. Un risque terroriste qui nous concerne aussi en France. Vladimir Poutine qui met en cause l'Ukraine. L'attentat dans une salle de concert près de Moscou vendredi soir pose d'innombrables questions. On va bien sûr y revenir très largement avec vous, Marc Ecker. Bonsoir.
Bonsoir, Hélène Zélani.
Merci beaucoup d'être à mes côtés dans le studio d'Europe 1. Vous êtes spécialiste du terrorisme, directeur adjoint à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors jusqu'ici, le Kremlin refusait de commenter la revendication de l'État islamique. Et là, à l'instant, hein, c'est tout frais, Vladimir Poutine dit que l'attaque a été commise par des islamistes radicaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est un changement de cap ?
Ça en a bien l'air, puisque avant, c'est plutôt la thèse ukrainienne qui avait l'air de tenir la corde du côté du Kremlin. Or, il y avait un certain nombre de preuves qui s'accumulaient pour montrer que c'était plutôt du côté de l'État islamique qu'il fallait regarder. Et là, on est dans une demi-marche arrière, puisque Vladimir Poutine lance effectivement la piste islamiste tout en disant que les individus se dirigeaient vers l'Ukraine. Donc, il ne se dédie pas totalement, mais on sent quand même qu'il commence à se résoudre à l'évidence.
Voilà, il dit que l'attentat a été commis par des islamistes radicaux qui ont tenté de fuir vers l'Ukraine et qu'il aimerait savoir pourquoi ils ont essayé de partir en Ukraine et qui les attendait. Donc c'est en effet un demi-recul face à des évidences. Est-ce que cet attentat finalement donne de lui une image de faiblesse alors qu'il vient juste d'être réélu ?
Une image de faiblesse, je ne sais pas, ça montre qu'il y a un certain nombre de défaillances dans l'appareil de sécurité russe. Alors c'est vrai que Vladimir Poutine se présente volontiers comme l'homme fort de la Russie, mais enfin on peut quand même pas lui imputer toutes les faiblesses de son appareil sécuritaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un échec. Dès qu'un attentat arrive et qu'il n'est pas déjoué, c'est un échec. Maintenant, la Russie a quand même subi d'autres attentats par le passé, y compris sous Vladimir Poutine, et jusqu'à présent, ça ne lui a pas vraiment porté préjudice.
Il semble que les États-Unis aient prévenu Moscou de l'imminence d'un attentat il y a une quinzaine de jours. Qui se serait passé à Moscou, selon ce qu'on sait, hein, Washington aurait dit « risque d'y avoir un attentat à Moscou dans un lieu de concert ». Est-ce que c'est Moscou qui n'a pas voulu en tenir compte, ou est-ce que finalement il y a tellement d'avertissements qu'il est passé un peu en dessous des mailles du filet ?
Voilà, on est évidemment dans les supputations, donc c'est difficile de répondre à cette question.
Parce qu'on est déjà surpris que les États-Unis envoient ce genre d'avertissement à la Russie.
Oui, ça. Alors, il est rare que la coopération antiterroriste s'arrête complètement entre les États, parce que il y a quand même un minimum qui généralement perdure. Et c'est vrai que le fait de dire « Ah, il y a des renseignements qui laissent penser qu'il pourrait se passer quelque chose », soit de le dire directement, soit indirectement, en publiant des alertes pour ses propres citoyens qui vivent dans un pays, par exemple, en disant « Évitez les rassemblements, il peut y avoir un risque », ça, c'est quelque chose qui est en fait assez classique. Maintenant, il est vrai qu'on est rentré dans une ère où tout est pris avec beaucoup de suspicion, tout est interprété comme une possible manipulation. Et il est vraiment difficile de répondre à votre question. Il y a peut-être un peu des deux en réalité. À la fois cette méfiance vis-à-vis de la parole occidentale ou américaine, et puis en même temps une incapacité des services de sécurité à arrêter tous les attentats, comme c'est le cas dans de nombreux pays. On le dit souvent en France d'ailleurs, le risque zéro n'existe pas, on peut pas mettre un policier derrière chaque radicalisé, etc. Ce sont des phrases très classiques, mais ce qu'il est important de rappeler, c'est que même dans les États autoritaires, même dans les États policiers, il y a des terroristes qui arrivent à passer entre les mailles du filet.
Alors, je voulais vous interroger sur cette image qui tourne en boucle sur toutes les télés, sur les réseaux sociaux, des quatre suspects arrêtés, j'allais dire quatre Tadjiks, on n'est pas à 100% sûr que tous soient Tadjiks, qui ont vraisemblablement été torturés. Pourquoi est-ce que ces images sont montrées jusqu'à l'écœurement ? Il y a une arrière-pensée, j'imagine ?
Oui, évidemment. Je pense que le premier public, c'est le public russe, d'abord. Il s'agit de montrer que les services, en fait, sont efficaces, qu'ils sont capables d'arrêter des terroristes très rapidement après un attentat, alors qu'au départ, on a justement mis en avant les failles. Et puis, il s'agit de montrer qu'ils ne feront pas de quartier, qui feront preuve d'une brutalité pour mettre fin à la menace. Il faut se rappeler quand même que c'est Vladimir Poutine lui-même qui avait dit qu'il irait, je cite, et pardonnez-moi l'écart de langage, buter les terroristes jusque dans les chiottes.
Oui, on se souvient de cette phrase. Alors, on va rester sur cette phrase. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien. Marc Ecker, spécialiste du terrorisme et directeur adjoint à l'IFRI. Et juste après, on va continuer à parler à la fois de cette menace terroriste en Russie et bien sûr de cette menace qui vise la France, puisque nous sommes maintenant en alerte maximum.
Europe 1 soir. Europe 1, le journal permanent.
Vladimir Poutine affirme que l'attaque près de Moscou vendredi a été commise par des islamistes radicaux, alors que quatre suspects ont été placés en détention provisoire et que trois autres personnes ont été arrêtées. Le président russe estime que les assaillants fuyaient vers l'Ukraine. Il veut savoir pourquoi. En France, le plan Vigipirate relevé à son niveau le plus élevé, des moyens exceptionnels déployés partout en France avec 4000 militaires supplémentaires placés en alerte selon le Premier ministre Gabriel Attal. Il précise que deux projets d'attentats ont été déjoués depuis le début de l'année. Le premier remonte au 10 janvier. Une personne avait été arrêtée pour un projet qui visait des cibles juives ou une boîte de nuit LGBT. Le second, déjoué le 5 mars, était projeté par un homme de 62 ans qui voulait viser des édifices religieux chrétiens. Nouvelles opérations Place Net XXL contre le trafic de drogue, lancées aujourd'hui à Lille, Lyon, Marseille, mais aussi Dijon et en région parisienne. Plus de 187 personnes ont été arrêtées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté cet après-midi sa première résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les États-Unis se sont abstenus. Le Hamas dit vouloir engager un processus d'échange de prisonniers immédiatement. Israël, de son côté, affirme qu'il n'arrêtera pas la guerre à Gaza avant que tous les otages soient libérés. Et puis la justice américaine réduit la caution de Donald Trump à 175 millions de dollars au lieu d'un demi-milliard. Condamné pour fraude financière, le candidat à la présidentielle a maintenant 10 jours pour payer cette caution.
19h-20h, Europe 1 soir.
19h33 sur Europe 1 et nous sommes toujours en direct dans ce studio avec Marc Ecker, directeur adjoint à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Encore un mot sur la Russie, on en parlait juste avant cette pause. Pourquoi la Russie et pourquoi maintenant ?
La Russie est en fait un ennemi de longue date de la mouvance djihadiste. Il faut se souvenir que Al-Qaïda est né dans les années 80 dans la zone afghane, Afghanistan-Pakistan. Et à l'époque, l'ennemi, c'était l'Union soviétique. C'était suite à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Ensuite, il faut se souvenir aussi qu'il y a eu les guerres en Tchétchénie, qui ont été menées avec une violence inouïe par la Russie. Et puis plus récemment, la Russie s'est engagée directement contre Daesh en Syrie, en soutenant Bachar el-Assad. Donc c'est vraiment un ennemi de longue date qui a déjà subi de nombreux attentats sur son territoire et dont les intérêts à l'étranger ont aussi été visés. On a par exemple oublié en France, parce que c'était quelques jours avant les attentats du 13 novembre 2015 et que cet événement, on le comprend, a un peu écrasé la mémoire collective, mais que à la fin octobre 2015, un avion de ligne russe avait été abattu par la branche du Sinaï en Égypte, déjà de Daesh. Donc c'est vraiment un ennemi de longue date et il n'est guère surprenant qu'il y ait encore des attentats de cette mouvance djihadiste et en l'occurrence de Daesh contre la Russie.
Alors Daesh qui vise la Russie, mais pour vous le groupe État islamique est aussi une menace pour toute l'Europe de l'Ouest.
L'État islamique est encore effectivement une menace pour la France et pour l'Europe de l'Ouest, oui, c'est évident. Il y a des déclarations successives, il y a des arrestations régulières, donc oui, c'est encore une menace.
Sachant qu'il y a l'Euro de football en Allemagne, qu'il y a les Jeux Olympiques en France, alors justement, on va parler de la France. On le disait, nous sommes désormais en alerte maximum, urgence, attentat. Et en même temps, Gérald Darmanin disait ce matin que la France empêchait des attentats quasiment tous les mois. Alors qu'est-ce qui change? Pourquoi finalement passer au niveau supérieur?
Oui, il y a des statistiques qui sont émises régulièrement par le ministère de l'Intérieur ou par d'autres autorités. Donc plus de 40 attentats déjoués depuis 2017, plus de 70 depuis 2012 et les attaques de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban. Donc c'est vrai qu'il y a une expertise de nos services qui réussissent à déjouer fréquemment des attaques, mais de temps en temps, des individus réussissent à passer entre les mailles du filet. Des attentats sophistiqués comme celui de Moscou, qui rappelle un peu dans son mode opératoire les attentats du 13 novembre 2015, ça, en revanche, il faut dire qu'il y en a eu peu. En fait, c'est plutôt l'exception, ce type d'attaque très sophistiquée qui parvient à son terme. Alors, qu'est-ce qui change pour répondre à votre question sur la hausse du niveau de Vigipirate? Il change qu'il y a eu un énorme attentat à Moscou et que ça pourrait donner des idées en France. Donc c'est ça vraiment, je pense, qui a incité les autorités à augmenter le niveau de la menace. Je pense pas qu'il y ait à l'heure actuelle de groupes qui soient capables et qui soient dans un processus de projeter de la violence du même type en France. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait eu un commando à Moscou et un autre commando en route vers Paris. À mon avis, ce n'est pas ça. Alors évidemment, il faut quand même toujours être prudent dans ce genre d'analyse. Mais voilà, je pense vraiment que ce qui a incité, c'est plutôt l'idée que ça pourrait inspirer et inciter au passage à l'acte des individus déjà radicalisés sur le territoire national.
Alors Marc Ecker, si vous le voulez bien, on va prendre Jean au téléphone, qui est professeur de maths et qui nous appelle d'Indre-et-Loire. Bonsoir Jean.
Bonsoir Madame Zeleny.
Merci beaucoup de votre appel. Quand vous entendez ce que dit Marc Ecker, est-ce que vous êtes inquiet?
C'est vrai que c'est inquiétant, mais ce qui est surprenant, c'est de constater aussi que, par exemple, la déclaration de Gérald Darmanin de se féliciter du fait que beaucoup d'attentats aient été déjoués, certes, mais on se rend compte quand même que le fonctionnement de la justice et le fonctionnement en général des institutions françaises ne permet pas en même temps de traiter cette menace de manière efficace. C'est ça qui est surprenant.
Mais quand on passe comme ça en alerte maximum attentat, qu'il y a un déploiement de sentinelles plus important, ça ne vous rassure pas tout de même? Vous n'avez pas l'impression d'être bien protégé par les autorités françaises?
Bien protégé, non, parce que c'est vrai que forcément, Gérald Darmanin a à cœur, entre guillemets, de bien faire les choses, forcément, hein, il est sincère, évidemment, dans sa démarche. Mais le problème, c'est qu'il faudrait traiter beaucoup plus les causes, et les causes sont connues, malheureusement, l'immigration, bien entendu, et puis également un communautarisme qu'on a laissé proliférer dans tout le territoire maintenant, et c'est vrai que tant qu'on ne traite pas les causes de manière efficace, on aura ce genre de drame qui vont se répéter. C'est étonnant que ça arrive, enfin étonnant entre guillemets, que ça arrive également en Russie, mais on voit bien que là aussi la désagrégation, entre guillemets, de l'État russe en ce moment fait que maintenant, en Russie aussi, des attentats de ce type-là arrivent, ce qui prouve bien que le pouvoir de Poutine et vacille également.
Merci beaucoup pour cet appel, Jean. Marc Ecker, Jean disait qu'il fallait prendre le problème à la base. Lui, il estime que c'est l'immigration. Est-ce que finalement, la question vous paraîtra peut-être un peu compliquée, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour éradiquer le terrorisme islamiste ou c'est totalement impossible?
Moi, je suis plutôt d'abord de ceux qui pensent qu'effectivement, quand on a affaire à une idéologie, c'est très difficile à éradiquer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut voir ce qui attire les individus vers cette idéologie. Ensuite, il faut regarder qui sont les personnes qui rejoignent ces groupes. Il y a quelques années, j'avais fait une étude qui d'ailleurs est disponible sur le site internet de l'IFRI et qui intéressera sûrement votre auditeur, qui s'appelait 137 nuances de terrorisme. J'étudiais les profils de 137 personnes condamnées pour terrorisme en France. Il y avait 93% de Français dans cet échantillon.
Donc, dire que c'est l'immigration, c'est une fausse idée.
Alors après, je remontais aussi à la deuxième génération, à la troisième génération. On voyait qu'il y avait un lien quand même avec l'immigration, puisqu'il y avait une partie non négligeable de cet échantillon, et même majoritaire en réalité, dont les parents ou les grands-parents étaient eux-mêmes issus de l'immigration. Donc il ne faut pas non plus nier...
Donc c'est une intégration qui est
ratée.
Donc
ça veut dire qu'il faut être plus subtil dans l'analyse des causes, ne pas avoir non plus une analyse trop noir et blanc du sujet, parce que certains vont vous dire ça n'a rien à voir avec l'immigration. Je pense que c'est trop naïf de dire ça, et ça nie une certaine réalité. Et d'autres vont dire c'est la faute de l'immigration. Et là encore, je pense que c'est excessif. Donc il faut essayer d'avoir une analyse nuancée là-dessus. Ensuite, sur l'aspect sécuritaire, moi je me sens protégé par le gouvernement français. Il y a énormément de mesures qui ont été prises pour nous protéger, et puis demain pour protéger les Jeux Olympiques, puisque tout le monde a les Jeux Olympiques en ligne de mire. Personnellement, moi j'irai avec ma famille, et j'irai pas la peur au ventre. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas non plus répandre la peur et regarder froidement les bilans du terrorisme en France depuis quelques années. On n'a pas non plus, alors si on démarre en 2020, on a des attentats évidemment extrêmement traumatiques, mais ça ne fait pas des centaines de morts. Donc là aussi, par rapport à l'écho qu'on donne à cette menace, il faut essayer de l'évaluer, j'allais dire froidement, et de bien mesurer les risques. Les risques qui existent, encore une fois.
Il y a ce qu'on a beaucoup appelé les loups solitaires. Ça a été le cas pour Samuel Paty, pour encore le professeur Dominique Bernard. C'est ces jeunes qui s'endoctrinent, semble-t-il, tout seuls, finalement.
Alors, j'aime pas trop l'expression loup solitaire, parce qu'en général, on s'endoctrine pas seul. Et justement, pour rebondir sur ce qu'a dit votre auditeur, souvent, il y a un écosystème radical et communautariste qui, quand même, nourrit le passage à l'acte de ces individus et leur radicalisation. Donc là-dessus, méfiance. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui passent à l'acte seuls, inspirés notamment par la propagande en ligne, et qui généralement le font avec des moyens low cost, donc avec un couteau, avec un véhicule bélier, etc. Donc effectivement, ça fait peur, mais la probabilité aujourd'hui pour qu'un Français soit blessé ou meure dans un attentat est quand même extrêmement faible. Donc ça ne va pas rassurer tout le monde que je dise ça, mais quand même, essayons de garder un peu de mesure.
Voilà, gardons de la mesure et vous vous montrez rassurant, c'est important. Je vous remercie beaucoup Marc Ecker, spécialiste du terrorisme, directeur adjoint à l'Institut français des relations internationales. Votre dernier livre s'intitule « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au 21e siècle » et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio. On va marquer une pause et on va parler de la situation de Donald Trump en mauvaise posture à cause de ses démêlés judiciaires. Mais là, il vient de gagner du temps et de l'argent. 19h46 sur Europe 1, c'était un jour important pour Donald Trump. Il devait fournir la garantie qu'il paierait près d'un demi-milliard de dollars de caution pour fraude financière. Et finalement, cette caution a été réduite à 175 millions et il a 10 jours pour la rassembler. Bonsoir Yannick Mireur.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes politologue, spécialiste des affaires américaines. Est-ce que Donald Trump a de quoi crier victoire ce soir ?
Bah, une petite victoire quand même, oui, parce que ça lui donne quand même une bouffée d'air frais de toute dernière minute, puisqu'il était assez clair qu'il était dans l'impossibilité de lever, pour faire simple, disons, une caution de pratiquement 500 millions de dollars, même s'il prétendait avoir beaucoup d'argent à sa disposition, ça ne faisait pas le compte. Et donc cette décision de la procureure et du du panel concerné pour donner cette pour rendre cette décision, lui offre quand même une porte de sortie, car sous 10 jours, c'est quand même suffisamment long, selon les informations dont on dispose, pour pouvoir éventuellement rassembler cette somme d'argent, qui est bien inférieure évidemment aux 454 millions, si ma mémoire est bonne, qu'il était censé fournir, qu'il était dans l'impossibilité de fournir, ce qui menaçait une partie de ses biens immobiliers, en particulier à New York, et de ce qu'il appelle son joyau, c'est-à-dire la Trump Tower et le 40 Wall Street.
Alors, ça veut dire qu'il risquait de devoir vendre ou d'hypothéquer?
Exactement. Oui, oui, tout à fait.
Donc, là, il a 10 jours.
Là, il a 10 jours pour rassembler cette somme-là et la séquestrer, en quelque sorte. Hein. C'est une procédure judiciaire. Donc, c'est qu'il lui offre une bouffée d'air frais. Alors, on ne va pas prédire, et je suis désolé, mais prévoir ce qu'il va pouvoir faire dans les 10 jours qui viennent, parce que déjà, tout ceci était très inattendu. Et en réalité, vous savez bien que les médias américains sont les yeux rivés, minute après minute, sur les épisodes judiciaires qui sont nombreux. Ça n'est pas le seul, comme vous le savez,
oui.
Qui peuvent menacer le projet de sa candidature, même si jusqu'ici, M. Trump a montré beaucoup d'habileté à tourner ses complications judiciaires en une forme de galvanisation de son électorat et en politisant ce qui est, on va dire, de bonne guerre, du reste, même si la situation politique américaine est tout de même désastreuse, mais il est de bonne guerre quand même de se servir de ses ennuis pour essayer d'en faire des atouts.
Alors, Yannick Mirror, vous faisiez allusion à d'autres problèmes judiciaire. Il y a donc cette caution à verser qui, malgré tout, qui est moins élevée, mais qui reste quand même à 175 millions, ça n'est pas rien. Il y a aussi un autre problème, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la justice américaine qui annonce aujourd'hui qu'il va être jugé dans l'affaire Stormy Daniels à partir du 15 avril. Vous pouvez nous rappeler en quelques secondes de quoi il s'agit ?
Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il aurait, pour, disons, passer sous silence ou essayer d'acheter le silence plutôt de Stormy Daniels, qui était donc une femme de confort professionnel, je ne sais pas comment vous dire.
Une ancienne star du X.
Oui, une ancienne star du X, on peut le dire comme ça aussi.
Voilà.
Il a, falsifié, utilisé ses comptes de campagne par une manipulation avec son avocat qui est maintenant en prison. Pour dissimuler cette affaire et empêcher qu'elle s'ébruite pour pouvoir nuire, notamment auprès de l'électorat féminin, dans sa vie publique.
Voilà. Cette affaire-là, qu'est-ce qu'il risque alors ?
D'abord, il y a une première chose, c'est qu'il y a un procès qui va être lancé et la date a été fixée au 15 avril pour cette procédure-là. Donc, il va y avoir un jury qui va être sélectionné. Et la procédure judiciaire, elle, que M. Trump et ses avocats ont jusqu'ici tant essayé de repousser aussi loin que possible vers le scrutin présidentiel, va démarrer. Donc, c'est plutôt des questions de sanctions financières dont il s'agit. Parce qu'il s'agit en fait de maquillage comptable, mais il y a évidemment l'autre face de la pièce qui pourrait être, une évaluation morale d'une partie de l'opinion américaine qui pourrait entacher sa marche vers la présidence des États-Unis au mois de novembre, étant donné que son investiture, l'étape préalable du Parti républicain, ne fait plus guère de doute, ainsi va d'ailleurs pour M. Biden en face. Mais il y a d'autres procédures en cours quand même, et elles sont liées dans la mesure où M. Cohen, l'ancien avocat donc de M. Trump, qui sera témoin au procès à partir du moment qui commencera le 15 avril, était tout à fait impliqué dans un autre procès très important à New York, celui-là aussi d'ailleurs, sur les falsifications comptables de Trump Organisation, la maison mère, la holding de M. Trump et de ses fils, qui a falsifié pendant des années ses comptes en surévaluant les actifs de Trump Organisation pour pouvoir obtenir des conditions de financement favorables, et ceci pendant une dizaine d'années, une évaluation d'un petit peu plus de 2 milliards de dollars. Et donc la peine là est tout à fait considérable. Et M. Cohen, alors sur l'affaire de Stormy Daniels, bon là j'ai de dire que c'est une petite affaire en quelque sorte, mais sur la grosse affaire qui concerne le Trump Organisation et donc tout le patrimoine que détient M. Trump et ses fils est beaucoup plus important. C'est la raison pour laquelle, si je peux plus faire ce pas de côté, M. Trump, vous aurez remarqué, utilise des références à Al Capone très souvent depuis peu pour essayer un petit peu de renverser la vapeur et de devenir un petit peu le le héros, alors non pas Robin des Bois, mais enfin le héros bandit martyrisé par les institutions, l'État et des procès en intention.
Et d'ailleurs, ce soir, il dit que c'est injuste que ces procès soient organisés en pleine élection. En fait, il essaie de retarder au maximum, si possible, de les repousser après la présidentielle. C'est possible, justement? Est-ce que c'est matériellement possible?
Jusque-là, il y est plutôt bien arrivé, et sauf pour l'affaire de Stormy Daniel, puisque vous venez de rappeler, hein, le procès, la procédure va commencer à partir du 15 avril, ce qui, évidemment, l'obligera d'une manière ou d'une autre, alors on n'a pas le calendrier, bien sûr, mais probablement à comparaître, même s'il comparaît déjà dans différentes instances judiciaires, notamment au tribunal de New York, pour les autres affaires, y compris cette semaine, pour les autres affaires qui sont donc instruites, mais faut pas oublier non plus que si une condamnation, quelle qu'elle soit, devait intervenir, ou des sanctions importantes, comme une sanction financière au préalable de séquestre d'une somme colossale comme celle que vous avez évoquée, il peut toujours faire appel. Et donc, en repoussant plusieurs fois les différentes procédures et en faisant appel, l'idée, évidemment, est de d'outrepasser le délai du mois de novembre, puisqu'il a déjà prévenu que s'il était élu, c'est évidemment le pouvoir d'un seul homme, non pas que aux États-Unis d'ailleurs, mais de s'appliquer la glace présidentielle à lui-même.
Mais en fait, la question que tout le monde se pose, c'est et finalement, est-ce que d'une manière ou une autre, il peut être empêché d'être candidat à l'élection du 5 novembre ?
Je crois que c'est difficile. La seule chose qui était la plus probante, en quelque sorte, c'était, c'est sur ce sujet-là que personnellement je regardais le plus près, en quelque sorte, c'était sur les questions, c'est pour ça que je me recevais Al Capone tout à l'heure, puisqu'il est tombé pour les questions de comptabilité. C'est la même chose pour M. Trump. Je crois que c'est le gros sujet de la falsification. Les Américains ne rigolent pas avec ça, sur la falsification des comptes de Trump Organisation, qui pouvait lui être le plus préjudiciable, parce que ça ruinerait peut-être aussi sa réputation d'homme d'affaires successful, disons, performant auprès d'une grande partie de l'opinion, et jetterait une forme de discrédit sur sa capacité, tout à fait fantasmagorique, mais sa capacité quand même pour une partie de l'électorat américain, notamment les républicains, à bien gérer l'économie. Donc je pense que c'est ça qui pourrait lui faire beaucoup plus de mal que l'affaire de Stormy Daniel, qui pourrait être prise d'une manière très différente dans l'opinion publique, ses aventures extramaritales. Voilà, l'affaire de New York pourrait être beaucoup plus importante. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus là-dessus, à part qu'il échappe aux quasiment 500 millions de dollars de séquestre.
Mais finalement, les électeurs républicains, est-ce que vraiment ça leur importe tout ça? Est-ce que finalement ils ne gardent pas cette admiration, cette idolâtrie pour certains vis-à-vis de Donald Trump?
Oui, en grande partie, mais il faut quand même se méfier parce qu'il peut y avoir de brusques retournements, et c'est toute, sinon la magie, en tous les cas, l'incertitude d'une élection présidentielle, celle-ci est plus singulière que toute autre si l'on remonte des décennies en arrière aux États-Unis, parce qu'il pourrait y avoir ce retournement-là. Malgré les déficiences ou les inconvénients de la candidature de M. Biden, vous voyez bien que pour l'instant, sur le front monétaire, même s'il est très tôt pour le dire, le front financier, pardon, son coffre-fort est deux fois plus important que celui de M. Trump, même si, encore une fois, il y a des mois et des semaines encore pour lever de l'argent pour chacun des candidats. Et puis, pour ce qui est des sondages, il a quand même une petite, disons que la balance penche un petit peu en sa faveur. Il pourrait y avoir, pour M. Trump, c'est pour ça qu'elle est imprévisible, cette élection, l'un ou l'autre cas, un 50-50, ce qui est une troisième option, et c'est la 50-50, quoi, hein, quelque chose de très serré entre les deux, ce qui est la situation actuelle, ou bien un retournement, une espèce d'envolée en faveur de M. Trump, qui dépendra beaucoup de l'agenda judiciaire, comme le contraire, c'est-à-dire un retournement d'une partie de l'opinion, une mobilisation des indépendants, des couches de la société dans lesquelles il est le moins fort, l'opinion aussi des États clés, qui sont plutôt traditionnellement des États démocrates, mais qui ont voté républicain lorsque M. Trump a été élu en 2016 et sont revenus aux démocrates en 2020. Et donc c'est très difficile de prévoir ce que l'ensemble du cocktail moral, judiciaire et financier pourrait porter. Et c'est vraiment une navigation au milieu de tant d'écueils qu'il est très difficile de prévoir, y compris pour lui-même et ses avocats.
Et ben on aura l'occasion largement d'en reparler d'ici le 5 novembre. Merci beaucoup Yannick Mirror, politologue spécialiste des affaires américaines, auteur du livre Populisme Smart chez VA Presse.
Europe 1 Soir.
Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 Soir. Excellente soirée.